Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 13h avec pour seule ambition de passer un bon moment et ça me semble déjà pas mal. Nous sommes le vendredi 4 février 2022, il fait toujours un temps assez nuageux dans le Beaujolais. Météo France annonce des éclaircies cet après-midi et des températures autour de 10 degrés. Va-t-on passer le week-end au soleil? A priori oui, samedi il fera beau. Et si ça suffit pas à vous mettre en joie, je peux aussi vous annoncer qu'on va retrouver dans cette émission le prof Patrick et son excellente rubrique économique. En ce moment, il plombe un peu l'ambiance en nous parlant nucléaire. Et c'est pas toujours tout rose, mais c'est passionnant. Et en fin d'émission, un peu de légèreté avec notre disquaire Pitch qui nous conseillera un album à écouter tranquillement ce week-end. Avant tout ça, on va accueillir nos invités du jour avec moi aujourd'hui en studio, Eléa et Guillaume. Ensemble, ils forment le groupe Gazelle, jeune projet musical hip-hop très électrique qui a publié sur toutes les plateformes ce mercredi 2 février son premier titre, ça s'appelle Toi-même. Alors on sait encore pas grand chose sur ce groupe, sur Gazelle, ça va être l'occasion d'en apprendre un peu plus. On sait déjà qu'il débarque tambour battant avec ce premier titre qui frappe fort. J'ai entendu un peu de Orelsan moi personnellement sur son dernier album par exemple, pour vous donner une idée. Le plus simple avant d'essayer de mieux les connaître, c'est de les écouter. Voici donc ce titre Toi-même de Gazelle. Gazelle qui s'écrit avec deux Z, c'est important de le préciser. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15, merci beaucoup d'être avec nous.
On écrit l'imaginaire, indécis dans l'ordinaire. Dans mon crâne, l'imaginer demain, j'en aurais plus rien à faire de tout ce que forment les contrats, les étiquettes, les principes à varier dans l'air, les vies toutes faites et les fous du chêne. C'est déjà fait, plus besoin qu'on m'en ferme. J'essaye d'inonder les rues désertes avec des cris et des personnages. Je raconte mes rêves et mes cauchemars, tout ce qui sort de ce monde en papier qu'on mâche. J'essaye d'inonder ta putain de vie avec des rires et des belles images. Préfère une voix colorée d'imprévu qu'une existence prédécoupée à la hache. Toi, toi-même. Toi-même, réveille-toi toi-même, démerde-toi toi-même, renverse-toi toi-même, relève-toi toi-même, brûle-toi toi-même, connais-toi toi-même. On s'est dit qu'on arrêtait les frais, qu'on n'avait plus le temps de chercher des excuses. Je suis au début de ma vie, à la fin de ma vie, j'aimerais dire que le regret est exclu. J'amasse les idées, les projets, j'en perds la tête en regardant la pyramide. Et quand le pire arrive, je deviens pyromane et j'entame les angoisses pour faire le vide. Lumière. Je transforme le vide en lumière. Les belles pensées dans la fosse, on partage en masse nos rêves et nos envies, sans voiler nos faces de personnages fous. Respire la force en ton être, un indice, on se fabrique tous nous-mêmes. Si le miroir est fou, n'attends pas que le monde vienne, ça attire les problèmes. J'en ai vu défiler dans les salles et sur les bavés, ceux qui bavent devant l'autre en oubliant que tout est en eux. Les gens têtus qui s'entassent dans les couloirs et les allées pour dire que la vie est terrible, que tout est foutu. Dommage, attention, mieux vaut être le maître dans la cage du lion, savoir parler aux bêtes avec attention, éviter toutes les mauvaises intentions.
Toi-même, 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 toi
toi-même du groupe Gazelle qu'on vient d'entendre dans Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ça tombe bien, ils sont avec nous en studio, le groupe Gazelle. Bonjour à tous les deux, Eléa et Guillaume.
Salut.
Salut.
Et merci d'être venu nous voir. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que vous êtes un groupe lyonnais, donc du coin. Eh bien, première question, qu'est-ce que ça veut dire Gazelle? Pourquoi ce nom?
Gazelle, alors du coup, ça vient de l'un de nos au tout premier morceau qu'on a composé il y a deux ans et demi. Et on avait un petit sample dans la prod qui galopait un petit peu. Et on cherchait un nom, on ne trouvait pas. Puis en fait, on était à fond sur ce morceau. Et on s'est dit, bah, au pire, pourquoi pas s'appeler Gazelle, quoi. C'était le nom du morceau et on a juste changé l'orthographe.
Ouais, il n'y a pas de message particulier derrière. J'ai essayé d'analyser, de me dire...
Non, ouais, c'était vraiment par rapport à ce sample-là. Puis on aimait bien cette image de la gazelle. Puis le mot est joli et voilà, c'est parti de là.
Donc on a pu vous découvrir, vous entendre pour la première fois il y a à peine deux jours avec le titre qu'on vient d'écouter, que vous avez publié. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'en fait, votre groupe, il a une histoire qui a 2-3 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça, 2 ans et demi. C'était un peu avant le confinement. On s'est rencontrés à l'ENM à Villeurbanne, au conservatoire, il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et puis voilà, les univers ont super bien matché et on a décidé de monter le projet. Bon, après, il y a eu le confinement, donc ça nous a pas cassé dans notre lancée non plus, parce qu'on a justement eu le temps de faire plein de sons, de créer, de produire pour être prêt justement et sortir le projet aujourd'hui. Mais du coup voilà, ouais, ça fait bien 2 ans et demi qu'on est sur le projet là.
Et vous parlez de l'ENM, votre parcours musical avant de se lancer là-dedans, c'est quoi à peu près en quelques mots?
Eh ben, alors moi du coup ça fait à peu près 10 ans que je fais de la musique, ça fait 10 ans cette année d'ailleurs. J'ai commencé, je faisais plutôt du rock, je faisais de la gratte, un peu de voix, j'ai commencé à écrire tout de suite dans mon premier groupe. Et puis après petit à petit je me suis mise à faire aussi de la MAO, je me suis inscrite à l'ENM au conservatoire où j'ai fait mon cursus, j'ai eu mon DEM là-bas, dans le département des musiques actuelles et amplifiées. Et puis voilà, j'ai eu un autre projet aussi où là j'étais vraiment plus à la tchatch, quoi, au rap.
Ouais.
Donc je faisais les prods, puis j'écrivais les textes.
Et le virage rock-rap, il s'est fait petit à petit ou ça a été une cassure brutale?
Non, pas tant brutale, parce qu'à l'époque j'écoutais pas mal de groupes comme Enhancer, Rage Against the Machine, un truc comme ça, ou qui mêlaient déjà
un
peu.
Un pas de chaque côté.
Ouais, rapcore, on appelait ça à l'époque. Je sais pas comment on dit aujourd'hui, mais du coup, non, ça s'est fait assez naturellement au final.
Et vous, Guillaume?
Mais moi, en fait, je viens plutôt de la musique électronique.
Ouais. Ça s'entend?
Ouais, certainement. Et ouais, plus particulièrement de la techno, enfin tout ce qui est autour de la musique électronique.
Ouais.
Et là, pour le coup, c'est réellement, même si j'ai déjà eu des projets avec de la voix, c'était clairement jamais orienté rap. C'est pas une culture que je connaissais vraiment. C'est vraiment Eléa qui me l'a... Voilà, qui m'a fait découvrir. Alors, j'écoutais Orelsan depuis 20 ans, C'est des trucs que j'avais dans les oreilles et tout ça, mais c'est ma culture, elle vient clairement des musiques électroniques et
ouais,
diverses et variées.
Et du coup, le mélange des influences, comment ça s'est passé quand vous avez commencé à travailler ensemble, Gazelle? Qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce que vous êtes arrivé avec des références communes à vous dire on aimerait faire de la musique comme ça ou
Non, alors là, si en fait, ce qui s'est passé plutôt, c'est que lors d'un projet vraiment hyper court avec des musiciens qui faisaient de la musique africaine, on avait fait un micro truc où Eléa faisait un peu de machine, rappait. Moi j'avais fait des petits bouts de prod. Eléa venait me demander tiens, le petit truc que t'as passé, tu pourrais pas en faire un truc et me le filer que j'essaye. Là il y avait pas de question de groupe ou de quoi que ce soit. Et petit à petit, après, elle est venue enregistrer dans mon studio. Et puis, on a écouté du son en commun. Moi, je lui ai fait écouter des bouts de prod que j'avais déjà commencé à faire.
Ouais.
Elle dit, ah ouais, bon, voilà. Après, elle m'a fait écouter des bouts de prod. Puis, ça a vite enchaîné. Après, on s'est beaucoup vu. Et on a vite trouvé, ce qui n'est pas forcément évident quand on monte des projets. Il y a eu une espèce d'évidence quand même esthétique où on n'a pas cherché 1000 ans, en fait. On a tout de suite fait des trucs... Ou Eléa, vu qu'elle bricole aussi quand même pas mal en production, elle a vite pris mes prods et les a retournés dans tous les sens, découpés, voilà. Moi, ça a pu m'arriver aussi sur des bouts de texte de dire, ah bah tiens, on pourrait changer. Enfin, ça a vite été un truc où c'est pas, je lui envoie des prods et puis s'il y en a une sur mille qui lui plaît, elle pose dessus. Mais quand même, le délire là, ça a été vite de construire un truc où on est quand même à part égale à peu près à tous les niveaux, quoi.
Même pour le texte, c'est souvent que du coup je lui envoie des trucs, il me dit tiens non, ça il y aurait peut-être moyen de modifier, il me propose des choses, par exemple sur toi-même, c'est lui qui a écrit le refrain, enfin.
D'accord.
Du coup, c'est vraiment un travail en commun du début à la fin sur tous les aspects du projet, et c'est ça qui est vraiment cool et qui nous plaît aussi dans ce duo, quoi.
Dans le rap, on a souvent l'idée du rappeur qui vient poser justement juste sur une instru, là c'est une vraie collaboration sur tous les aspects.
Ouais.
Et du coup, je suis étonné que, enfin, vous avez une vraie identité sonore qui marche bien. Il n'y avait pas d'objectif de départ. Vous êtes parti. On verra bien où on arrive.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait vite 4-5 morceaux. Ouais. Et on s'est tout de suite dit, putain,
ça marche.
Ça marche. Enfin, en tout cas, ça nous fait triper.
Ouais.
Après, bon, de toute façon, c'est comme tout. Là, le projet, on a sorti les réseaux sociaux il y a un mois. On verra bien si ça ne plaît qu'à nos potes et puis qu'à nous. Mais en tout cas, le truc, c'est déjà de dire, bon, ben, y a une évidence, on n'est pas déjà en train d'énormément travailler pour trouver quelque chose qui nous plaît et qui nous parle, et où il y a une cohérence. Donc, en tout cas, à notre sens, parce qu'après, c'est, la cohérence, c'est peut-être les autres qui nous la donneront, mais en tout cas, non, il n'y avait pas... puis ça s'est un peu fait comme ça, et après, de toute façon, on a tellement été vite coupé avec ce confinement que l'idée, c'était de se dire bon, bah, on aime ce projet. On n'a pas tout de suite pensé réseaux sociaux, dates et tout ça. On s'est dit on va faire de la matière. Il y a un côté quand même très DIY dans le projet où on aime bien tous les deux faire de la photo, bricoler de la vidéo. Donc on s'est dit allez, on monte nos clips, vraiment côté bricolage DIY. Et qui est quand même pas mal à l'image du projet, quoi. Pour l'instant, on essaye de faire notre petit univers à deux, quoi. Voilà.
Ouais, il y a une communication visuelle aussi. Et déjà un premier clip là sur le titre qu'on a entendu sur toi-même. C'est est-ce que c'est une charge, parce qu'aujourd'hui on est obligé de communiquer sur les réseaux sociaux, d'avoir des visuels quand on fait de la musique, si on veut que ça marche et toucher du monde. Est-ce que c'est une contrainte ou ça fait partie du plaisir et un mode d'expression artistique?
Bah. C'est une contrainte dans le sens où c'est du temps en fait qu'on prend à la place de faire de la musique, quoi. Là, on est en train de galérer sur les réseaux, les machins et tout. En plus, c'est pas trop notre truc à la base, mais on essaye du coup de trouver une manière cool qui peut éventuellement nous donner plus envie de le faire, quoi. En réfléchissant sur nos photos, sur l'Instagram par exemple, on a vraiment essayé de faire une jolie page avec des visuels qui nous plaisaient, etc. Du coup, c'est un peu les deux, quoi. Il faut passer par là, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout passe par ça.
On est obligé, ouais.
Donc, contrainte dans ce sens-là, parce que ça prend quand même vachement de temps, puis c'est un taf, quoi. Il faut savoir faire aussi. Et en même temps, c'est kiffant de réfléchir un peu à l'esthétique du projet, quoi, autant visuellement que musicalement, pour retrouver un équilibre et que ça nous corresponde aussi à l'image, quoi.
Ouais.
En tout cas, on a pris du plaisir à faire les contenus. Ça veut dire que faire un clip, ça nous a fait marrer. Faire des photos, même, enfin, tout ça, c'était chouette. En fait, après, c'est quand même le développement. Et là, pour le coup, le passage obligatoire de... Mais en fait, on n'envoie plus un CD aux assos du coin. On n'envoie plus une petite lettre avec un petit goodies. Il faut quand même passer par ces réseaux sociaux. Et effectivement, pour l'instant, on peut dire que le démarrage est... Et un peu pénible, quoi. Moi, je dirais pénible, non, parce que c'est quand même quelque chose qui est... Voilà, on peut ne pas avoir d'affinité avec ces choses-là, ouais, mais sûr, par contre, c'est un peu un passage obligatoire, quoi.
Ouais. Et pour parler un peu du clip et du morceau toi-même, ça parle de l'égoïsme de notre société actuelle, c'est ça?
C'est plutôt un morceau d'introspection où je parle vachement de ma vision, mon regard sur moi-même et surtout essayer d'un peu lutter contre un certain déterminisme social qui pourrait nous être imposé justement par un contexte de vie ou par plein de choses dans la société, notre entourage, le regard sur le monde, etc. Et du coup, essayer d'éviter de s'imposer trop de choses qui viendraient de l'extérieur et surtout trouver les outils qui sont déjà en nous pour révéler notre lumière. Je dis je transforme le vide en lumière dans le morceau. C'est un peu ça, quoi. C'est de chercher ce qu'on a en nous pour arriver à être bien dans la vie de tous les jours, quoi, sans prendre trop en compte ce qu'il y a autour, qui parfois nous noie.
Et c'est un morceau qui est hyper agressif dès le début, avec ça commence avec des tambours de guerre carrément. Et...
Ouais, c'est un peu énervé, c'est un peu un message j'en ai marre, quoi. Là, c'est bon, trouvons ce qu'on a.
De la poésie quand même, je mets de la lumière dans le vide, je transforme le vide en lumière. Il y a quand même de la poésie et de l'espoir dans ce truc assez sombre. Ça aussi, ça fait partie de l'esprit gazelle et de ce que vous avez envie de faire avec votre musique.
Ouais, c'est un truc qu'on retrouvera aussi sur l'EP là, qui sortira en avril. Du coup, c'est un 5 titres, dont toi-même. Et c'est vraiment ça nous correspond pas mal. Les morceaux sont assez cohérents dans cet esprit-là, justement, contrasté entre un truc un peu poétique, puis un truc un peu sombre aussi parfois, planant. Des messages positifs, mais avec quand même certains trucs un peu sombres, quoi.
Ouais. Vous avez parlé de l'EP en avril, c'est le projet futur, la prochaine étape, c'est de sortir cet EP.
Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être un clip entre-temps.
Ok.
Ça, on va voir, normalement. Mais en tout cas, oui, l'EP en avril, et puis après, là, on est en train de bosser le live.
Ouais.
Donc, l'idée, c'est de tourner à fond cet été.
Ok, avec, j'imagine, avec des sons aussi électriques, des machines sur scène et... Et vous deux pour les piloter ?
Oui, c'est ça. Ben, on est quand même vraiment parti. Cela sur les morceaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est assez peu réalisé à l'ordinateur.
Ouais.
Enfin, on sert vraiment d'un ordinateur comme d'un multipiste, mais
il enregistre l'ordinateur.
Voilà, l'ordinateur enregistre et on est tous les deux quand même bien fans de vieux synthés des années 60-70, des boîtes à rythme et tout ça. Et du coup, dans notre façon de composer, on est quand même beaucoup, enfin, essentiellement parti de ces vieux synthés. L'idée, c'est quand même de réussir à en faire une transposition et de ramener notre chambre sur scène.
Alors, le home studio sur scène.
C'est ça, voilà. Là, ce sera vraiment d'essayer de donner à voir que les choses, elles sont. En tout cas, voilà, dans ce qui nous plaît dans la couleur, que ça a été construit de manière. Assez artisanal, entre guillemets.
Ouais. Et qu'il y a de l'organique, qu'il y a du vivant au milieu de toutes ces machines. Et
C'est ça, c'est-à-dire que oui, c'est quand même aussi des machines qui, pour la plupart, n'ont pas forcément de mémoire, qui n'ont pas forcément... Enfin, en tout cas, Eléa aussi, par son parcours, elle m'a toujours dit moi, j'aime pas bien, je suis pas bien à l'aise dans ce milieu du rap, de prendre un peu n'importe quelle prod et de poser dessus. Enfin, je le fais, mais c'est pas... Voilà, et là du coup c'est un peu l'idée de reproduire le côté groupe et le côté, comme je disais tout à l'heure, un peu on fait tout, quoi. On n'est pas en train de, même s'il y a des choses très très bien où on va prendre un morceau sur YouTube et poser dessus, parce que c'est aussi une vraie culture, là on essaye de proposer autre chose, bon, on verra.
C'est pas lancer une piste et rapper dessus.
Voilà, avec tout le respect qu'on a pour quand même cette mouvance et où... Dès le début dans le rap, il y avait quand même ce truc d'être capable de rapper sur n'importe quoi. Mais là, on essaie d'être dans un truc un peu plus singulier, si on peut dire.
Et il y a une place, c'est que des fois, des groupes qui se forment à deux, à collectif réduit, ils invitent d'autres musiciens pour le live, pour avoir d'autres musiciens qui jouent d'autres instruments. Est-ce que vous laissez une place à cette possibilité, ou là, vous avez envie vraiment d'être... porteur à deux de ce projet-là et de l'incarner juste vous deux.
Pour l'instant, pour le live, non. L'idée, c'est quand même vraiment de rester à deux.
Ouais. Mmh. Le morceau qu'on va écouter, il sera aussi sur l'EP. Ça s'appelle Tes yeux.
Ouais.
Là, on est un peu plus dans un monde planant.
Ouais.
C'est ça.
C'est ça.
Et une intro, alors j'ai envie de dire psy-trans dans les sonorités, je sais pas. Est-ce que je suis un peu nul sur les styles de musique
Alors psy-trans, pas forcément. Ouais. Enfin, on n'est pas entrant en mode fluo, goa et avec des ganesh sur les t-shirts. Mais là, l'idée, c'est un truc qui est quand même peut-être un peu plus... Alors, on entend vraiment bien les synthés analogiques et tout ça sur celui-là. Ouais. C'est une chanson d'amour, c'est une balade, c'est un morceau peut-être avec un beat qui ressemblerait à un truc abstract hip-hop. Peut-être, voilà. Moi, c'est ce que je mettrais derrière, mais bon, c'est vrai que les termes, maintenant, on peut tout mettre derrière.
Donc. Ouais, c'est un peu flou. Et en tout cas, ça laisse un peu plus de place à la poésie. Merci beaucoup à tous les deux, Eléa, Guillaume, d'être venus nous parler de Gazelle. Et donc, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. On n'en a pas parlé, mais enfin, on a parlé des réseaux sociaux, mais on n'a pas dit où est-ce qu'on pouvait vous retrouver, c'est important. Instagram.
C'est ça, Instagram, Facebook, puis les plateformes de streaming et YouTube, du coup, avec le clip qui vient de sortir.
Et Gazelle, il faut bien l'écrire avec deux Z.
C'est ça.
G-A-2-Z-E-L.
Très bien. Merci beaucoup. On écoute donc Tes yeux de Gazelle. Très bonne journée.
Merci Mathieu.
J'imagine un monde parallèle dans lequel on existe. L'iris dessine les formes et je me noie dans les esquisses. On se trouve lorsqu'on rêve ensemble. Est-ce que le reste importe lorsqu'on tremble? Le sol n'est pas si dur, j'ai l'impression de léviter. Quand je me lève, je quitte un monde où je me plais à exister. On a le droit de s'aimer sans le dire. On a le droit de se dire que l'on sait. On erre comme deux vieux esprits, depuis l'aube jusqu'au creux de la nuit. On s'enlève sous la peau les épines, qu'on se jette à la gueule et on rit. Je sais plus dans mes songes qui je suis. Ce qui est sûr, c'est qu'en rêve on se suit. Un bateau qui s'envole sous la pluie, dans la nuit, dans le bleu et le gris. Toujours, toujours là. Le fil se déroule comme un film muet. Tout se fige dans le silence. Avec 1000 ans de retard, on aurait quand même de l'avance.
Gazelle sur Khaled, jeune groupe lyonnais qu'on a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. On vient d'entendre leur titre, Dans tes yeux.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Khaled, le prof Patrick.
Allez, on retrouve tout de suite le prof Patrick avec nous. Bonjour prof Patrick.
Salut Mathieu, salut les auditeurs, content d'être de retour.
Et oui, ça fait plusieurs semaines que vous nous avez laissé en haleine.
Avec un suspense terrible sur deux chroniques sur l'énergie nucléaire. Et je vous avais promis une troisième et dernière partie. Ne t'inquiète pas Mathieu, après on passera à autre chose. Et la voici, cette troisième partie. Alors, petit rappel, dans la partie 1, j'ai fait une présentation historique de 50 ans d'énergie nucléaire en France et dans dans le monde. Dans la partie 2, on a découvert deux choses. D'abord, un, que le nucléaire représente des coûts absolument délirants et que sa maîtrise technique aujourd'hui est très problématique. Et deux, que pour autant, dans le contexte d'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, le nucléaire est à peu près incontournable comme ingrédient du mix énergétique nécessaire, grâce à sa stabilité de sa production face aux problèmes d'intermittence des renouvelables. Mais tu me connais, Mathieu, j'aime pinailler, bien sûr. Hein, tu te rappelles qu'on avait repéré un mot magique derrière lequel la trajectoire nucléaire et Fermela n'était plus si évidente que ça. Tu te souviens du mot magique? Ah, c'était avant les vacances, il s'en rappelle
ouais,
plus.
Ça
Mathieu.
Fait long
c'était
pour moi.
C'était le mot sobriété.
La sobriété, ah oui, voilà. Il y a plein de choses derrière ça.
Aussi bien RTE, c'est-à-dire l'organisme public de gestion des réseaux d'électricité de France, qui est un ex-EDF et qui est très pro-nucléaire, aussi bien RTE que le GIEC, qui est plus neutre sur la question, ont mis au point des scénarios sobriété qui se passent ou à minima qui réduisent fortement l'option nucléaire dans le mix énergétique global. Alors on va détailler la proposition d'un troisième acteur, ni RTE ni le GIEC, mais l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence pour le développement, non, pardon, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui préfère aujourd'hui qu'on l'appelle l'agence de la transition écologique. C'est une organisation publique qui œuvre depuis des décennies dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Et l'ADEME a aussi publié son rapport en novembre 2021, il y a donc pas très longtemps. Quatre scénarios proposés par l'ADEME. Deux scénarios sobriété, justement. Le premier s'appelle génération frugale, le deuxième s'appelle coopération territoriale. La philosophie de ces deux scénarios, c'est changeons nos modes de vie, réduisons notre consommation. Deux autres scénarios, technophiles, le troisième s'appelle technologie verte, le quatrième, Paris réparateur. Ces deux autres scénarios ont une philosophie très différente, c'est continuons sans rien changer et comptons sur la technologie pour nous sauver.
Ah ouais, pas mal, c'est bien ça.
Alors, comme le note Fabrice Boissier de l'ADEME, dans un article que je mettrai en lien, sur les trois leviers d'action dont on dispose, ces trois leviers, c'est la sobriété, c'est l'efficacité énergétique et c'est le recours aux énergies propres, eh bien le premier, la sobriété, c'est le seul de ces trois leviers qui n'est pas handicapé par des problèmes de faisabilité. Sauf que la sobriété, par contre, elle nécessite une vraie réflexion politique, politique au sens noble du terme, hein, sur un questionnement sur nos besoins individuels, nos besoins collectifs et des choix dont certains iront dans le sens de la limitation, parce qu'il faut réduire notre impact sur l'environnement. Alors Fabrice Boissier relève des obstacles sérieux déjà à toute la thématique de la sobriété. Déjà, il y a le fameux effet rebond. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet rebond. Est-ce que tu connais l'effet rebond, Mathieu ?
Non, mais je sens que vous allez nous l'expliquer.
Je vais te dire ça en deux mots, c'est très simple. À chaque fois qu'on arrive à améliorer la performance énergétique d'un produit, c'est-à-dire ce produit consomme moins d'énergie dans sa fabrication, eh bien cet avantage est contrebalancé par une augmentation quantitative de la consommation, enfin des ventes générales de ce produit. Ouais. Pensez aux ordinateurs, vous pensez à la 5G au lieu de la 4G, c'est systématique. Ça, c'est un premier obstacle pour aller vers la sobriété. Deuxième obstacle, peut-être plus grave, à mon sens, notre imaginaire collectif, Mathieu. Il est fondé sur l'idée, être heureux, c'est consommer toujours plus.
Ouais.
Voilà. Et ça, pour enlever ça de la tête des gens, c'est pas facile. Petit exemple parmi tant d'autres, en 15 ans, nous Français, hein, consommons aujourd'hui, deux fois plus de vêtements, aujourd'hui, qu'il y a 15 ans.
Pour quelle raison ?
Aucune raison objective. Côté imaginaire collectif, on peut aussi mentionner celui de la réussite sociale, réussite familiale, qui correspond immanquablement à l'achat d'une maison individuelle. Oui, mais ça a des conséquences très lourdes sur l'organisation du territoire, sur les déplacements. Donc, côté transport et habitation, c'est rien d'autre que deux des trois plus gros pôles émetteurs de CO2. On voit que notre imaginaire va être un gros problème. Alors, revenons malgré tout à ces deux scénarios sobriété de l'ADEME, hein, qui font le pari de réussir à changer nos modes de vie. Le problème, c'est que le premier fait le pari d'une modification rapide de notre imaginaire au moyen de normes contraignantes. Les normes contraignantes, on a vu ce que ça donne en termes de réaction, hein, en termes de clivage dans la société, de tensions fortes, souvenons-nous des gilets jaunes. Le deuxième est fondé plutôt sur un consensus. Mais consensus issu d'une gouvernance un peu multipartite. Tu sais un peu ce qui se fait beaucoup en Allemagne, en Europe du Nord. Ouais, mais pas en France. Pas du tout en France. Hein. En France, on a un problème. On a une élection présidentielle, ensuite un scrutin majoritaire à deux tours qui suit lors des élections législatives. Ce sont des machines à créer du clivage. La logique multipartite n'est pas possible en France. Rien n'oblige les gouvernants français à former des coalitions comme on peut en trouver en Allemagne. Et donc ça, c'est vraiment... un gros problème pour la faisabilité de ces scénarios sobriété. Et c'est très dommage parce que ce sont ces scénarios qui permettraient à la fois d'accepter une prolongation de l'utilisation du nucléaire, mais dans une optique de diminution programmée sur 30 ans, tout en permettant d'atteindre les objectifs de 2050 par un vrai changement de comportement collectif. Alors à ce stade, on va se poser une question, Mathieu. Quelle est la vraie fonction du nucléaire, symboliquement parlant ? Alors comme d'habitude, on pose la question, on va la mettre de côté, on y reviendra après. Oui, parce que déjà, on peut noter que concrètement, hein, pas symboliquement, le nucléaire, il nous permet quoi ? Il nous permet de faire les kékés. D'accord ?
Ouais.
On est le pays d'Europe qui a la plus faible empreinte carbone. Donc on est fiers, hein, on se vante, on est content. Sauf que si on regarde le bilan des actions de ces 5 dernières années, alors là, on va être tout de suite moins fiers. L'Agence internationale de l'énergie a fait une analyse très détaillée, hein, de la performance de la France. Concernant les énergies renouvelables, eh bien, sur le plan 2015-2020, on a un retard. On a atteint 19,1% de consommation d'énergie brute finale brute fournie par les renouvelables. Ça aurait dû être 23,4%. On ne tient pas cet objectif, d'accord ? L'objectif qui a été fixé par le programme pluriannuel de l'énergie. Concernant les économies d'énergie, ben devine quoi ? On ne tient pas non plus les objectifs.
Ouais.
On n'en a tenu aucun, en fait. Nous aurions dû baisser chaque année de 4% notre consommation d'énergie. D'accord ?
Ouais.
On a réussi à baisser une fois de 4% sur 10 ans. Voilà. Donc, sur la période Hollande-Macron, on est vraiment sur un échec assez retentissant par rapport à tous les objectifs que nous sommes fixés. Hein. En juin 2019, il y a le Haut Conseil pour le Climat qui a publié un rapport et dans lequel il rajoute une couche. Hein. Il explique que le budget carbone 2015-2018 n'a pas été respecté. Il a été dépassé de 62 millions de tonnes de CO2. Que le rythme de réduction des gaz à effet de serre est deux fois trop lent par rapport au rythme qui serait nécessaire pour atteindre nos objectifs. Etc. Plus grave encore, ce même Haut Conseil pour le Climat publie plus récemment une note en décembre dernier, donc il n'y a pas très longtemps, et dans lequel il signale que l'objectif de réduction d'émissions de CO2 de la France, c'est moins 40% en 2030, y a un problème maintenant, parce qu'en fait, ça ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés à la COP26. Mmh. L'Union européenne le sait, elle est passée à moins 55% en 2030, mais pas la France.
D'accord.
Voilà. Donc on est sur une situation qui est très problématique malgré notre avantage nucléaire. C'est-à-dire qu'on a un investissement insuffisant. Ouais. Mais tout ça n'est pas très audible, Mathieu, dans le débat franco-français actuel. Parce que le débat franco-français actuel, début février 2022, c'est des élections présidentielles qui arrivent, d'accord ? Avec, en gros, si je simplifie, une gauche qui va vers une de ses plus grandes déroutes de ces 50 dernières années. On a tout le spectre de la droite qui est omniprésent dans cette campagne, de la droite libérale mondialiste de Macron à l'extrême droite zémouro-lepéniste, en passant par la droite conservatrice de Pécresse. Le point commun de tous ces braves gens, c'est qu'ils font tous le choix de la relance de l'énergie nucléaire, ok, mais la plupart d'entre eux sont allergiques à la notion de sobriété, qu'ils identifient à l'écologie punitive. Est-ce qu'ils ont tous conscience des incidences financières colossales du choix nucléaire dont on a parlé dans la deuxième chronique, sans parler du prix à payer pour maintenir le parc nucléaire existant? On a vu les coûts énormes, hein, de mise à niveau, de démantèlement, de mise aux normes, de gestion des déchets. Je ne suis pas certain qu'ils aient conscience de l'immensité des incidences financières. Quand ils vont découvrir l'ampleur, eh bien, il est de la plus haute probabilité que l'affolement va les gagner. Et surtout si, ce qui est probablement le cas, la plupart feront un choix de baisse des dépenses publiques. Qui c'est qui va payer le choc, le prix de ce choc des priorités, à ton avis ? Ça ne sera pas le nucléaire, hein, bien sûr. Ce sera les énergies renouvelables. Très probablement, on sait déjà, avec les campagnes anti-éolien assez violentes de la part de la droite, qu'il va y avoir sans doute du retard qui sera pris sur le développement des énergies renouvelables. Et là, on va avoir un énorme problème, parce que le mix énergétique peut inclure du nucléaire, mais nécessite absolument une progression forte de la mise en place d'infrastructures d'énergie renouvelable. Alors revenons à la question, Mathieu. Dans ce contexte, la vraie fonction symbolique du nucléaire dans le discours franco-français, c'est quoi ? Eh bien, c'est de maquiller sous un ton techno-optimiste triomphant le bon vieux « surtout ne changeons rien nos habitudes ». Le monde entier doit faire des efforts, mais pas nous. On pensait que les Américains avaient un copyright sur ce genre de discours, mais en fait, ils ne sont pas les seuls. On arrive à la fin de ces trois chroniques, mon cher Mathieu. Alors, je pourrais prudemment rester là, hein, comme un prof doit le faire avec son devoir de réserve. Mais non, je vais faire une exception à ce devoir de réserve. Que conclure de tout ça ? Doit-on ou pas utiliser l'énergie nucléaire ? Pour apporter une réponse personnelle à cette question, je vous propose celle de l'économiste Christian de Pertuis, dans un article récent que je mettrai en lien dans le podcast, parce que je souscris totalement à son analyse et à ses propositions. Trois points sur ces propositions. 1. Rappel de la priorité absolue à donner à la notion de sobriété énergétique. 2. Prolongation du parc nucléaire existant plutôt que de construire de nouveaux EPR. Ceci pour atteindre l'objectif non pas de 40% mais de 55% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. 3. Autre priorité absolue, le développement des renouvelables et pourquoi pas de la future filière hydrogène. Moralité de ces trois chroniques, mon cher Mathieu, sobriété et mix énergétique sont les deux clés de la réussite face aux enjeux climatiques.
Ouais.
J'en ai terminé.
Je retiens aussi le déni de l'importance du changement climatique et des choses à mettre
tout
en œuvre.
Tout à fait.
On est tout le temps en train de dire c'est pas grave, on s'en occupe.
Et de sous-estimer systématiquement l'importance des efforts. Et ben résultat, en fait, on ne tient aucun de nos objectifs qui sont pourtant programmés depuis 2015. On n'en tient aucun, chaque année.
Allez, bah ce sera pour les générations futures, on va dire ça.
Exactement.
À bientôt, prof.
Salut Mathieu.
Ensemble sur Calade.
Allez, avant de retrouver notre disquaire Pitch, un peu de musique. L'artiste qu'on écoute s'appelle Séverine et le morceau c'est Mea Culpa, c'est nouveau et c'est sympa. Sur Calade avec le titre Mea Culpa.
Trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Allez, pour le choix du disquaire, il nous faut notre disquaire. Et le nôtre, c'est Pitch de l'Underground Store à Villefranche. Salut Pitch.
Ah Mathieu, là je suis en direction d'Annecy, comment vas-tu ?
Eh ben ça va bien, ravi de te retrouver après une longue période de pause.
J'ai croulé sous les lettres de réclamation. Hein.
Mais il est où notre disquaire ? Ouais, je veux bien le croire.
Non, de nous deux, de notre duo, les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait plus d'émission, je te jure.
Aïe. Bon, eh ben, il est temps de leur proposer alors un album à écouter sans plus attendre. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine ?
la crème de la crème de fin d'année 2021.
Ouais.
Un enfant du Beaujolais, on peut dire ça, parce que c'est un gars qui est du Beaujolais depuis une petite vingtaine d'années, qui a toujours été dans la musique.
Ouais.
Il arrivait d'Afrique et il a toujours vraiment, il a sillonné toutes les salles de concert de la région, il a sorti plein de disques promo, c'est quelqu'un qui s'est vraiment bougé. À l'époque, on l'appelait Docteur Last.
Ouais.
Et là, il est de retour. En fait, j'ai su ça par une cliente, là, vers Noël. Ah, vous avez reçu le vinyle de Docteur Last? Je dis, non, mais Docteur Last, il a pas sorti de vinyle, c'est un copain, il m'aurait dit. Et en fait, je m'aperçois que si, fin d'année, il a sorti un EP sous le nom de Las, donc il n'y a plus le docteur, mais Las est là. Mmh. Et je me suis procuré ça, bah, du coup, en double. Je voulais voir ce que ça donnait sur vinyle. Et c'est tellement une surprise agréable. C'est genre, c'est le l'incontournable, quoi. C'est le truc. Si j'en avais un carton, je les vendrais comme des petits pains. C'est un super bon disque.
D'accord. Et musicalement, on est sur quoi comme style?
Alors, on est sur quoi comme style musicalement? Alors, bien sûr, c'est africain, même si je dis que c'est un enfant du Beaujolais depuis 20 ans, on est vraiment dans des ambiances africaines. Très dansant, hyper. C'est un disque qui est plein de soleil, plein de sagesse, hyper. Ça réunit, tu vois. C'est un truc qui vraiment, on a envie de se réunir. Autour du feu, quoi. C'est dingue. Le disque est, alors c'est super bien pressé musicalement. Ils ont vraiment bien fait les choses. C'est distribué par un sous-label de Wagram.
D'accord.
Une jolie pochette. On le voit de profil avec un joli vert. C'est vraiment très 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 élaboré le visuel. On le trouve de partout dans tous les magasins de disques. On le trouve vraiment de partout. Il est distribué. Comme il faut, voilà. Et non, c'est trop bien, c'est ambiançant. Tout le monde a adoré. Alors, t'as des notions d'électro au niveau de la production. T'as un mélange un peu de trad, quinf et d'électro. L'as-tu écouté? Qu'est-ce que t'as choisi? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Eh ben, j'ai écouté quelques morceaux. J'étais surpris, je connaissais pas, et c'est super. Et moi, j'ai choisi le morceau qui s'appelle Mo Yaro. Et voilà, c'est tout en douceur, tout en étant rythmé. Et enfin, c'est super agréable à écouter, quoi. On se laisse bercer.
C'est ça. Il n'y a pas un morceau moyen. Ils sont tous hyper percutants, hyper sympas. Il est venu dans les studios de Radio Calab, tu sais.
Eh ben non, je ne savais pas. J'aurais aimé être là. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute tout de suite, Las. Donc, l'EP à écouter, ça s'appelle également Las. Et le morceau qu'on écoute tout de suite, c'est Mo Yaro.
À se procurer d'urgence. Et moi, je reprends la route.
Très bien.
Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence.
Aïe, aïe, aïe. Bon, bonne route, Pitch. Et à tout bientôt, à la semaine prochaine.
Allez, des bises.
Send my eye. Going on my ticket, say, warning, go come on. Hallelujah, Rumani, I'm a mom. Yali gay, Lumeli, I'm a low morom. As you've to bark, money, I borom. You know, not to them anymore, Yaro. Come on,
Par Las, c'était le choix musical de Peach, notre disquaire, pour terminer cette émission ensemble sur Calade. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous la retrouverez bien sûr en réécoute sur radio-calade.fr. Et puis la rediffusion, ce sera lundi matin à 10h. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien lundi à 12h12 pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un tout aussi bon week-end. Et puis prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.